Bonjour, ici Ghislain. Je vais vous lire un texte de Balloux intitulé « Communauté, aimer la communion ». Citation au début du texte. La communauté ne peut pas s'enraciner dans une vie divisée. Bien avant que la communauté ne prenne une forme extérieure, elle doit être présente comme une graine dans le moi non divisé. Ce n'est que lorsque nous sommes en communion avec nous-mêmes que nous pouvons trouver la communauté avec les autres. Parker Palmer. Pour assurer la survie des êtres humains partout dans le monde, les femmes et les hommes s'organisent en communauté. Les communautés soutiennent la vie, pas les familles nucléaires ou le couple. Et certainement pas l'individualiste robuste. Il n'y a pas de meilleur endroit pour apprendre l'art d'aimer que la communauté. Monsieur Scott Peck commence son livre « The Different Room, Community Making and Peace » par une déclaration profonde. Dans et par la communauté se trouve le salut du monde. Peck définit la communauté comme le rassemblement d'un groupe d'individus qui ont appris à communiquer honnêtement les uns avec les autres, dont les relations vont au-delà de leur masque de calme, et qui ont développé un engagement significatif pour se réjouir ensemble, pleurer ensemble, et se réjouir les uns les autres et faire nôtre les conditions d'autrui. Nous sommes toutes et tous nés dans le monde de la communauté. Il est rare, voire impossible, qu'un enfant naisse dans l'isolement, avec seulement une ou deux personnes spectatrices. Les enfants naissent dans un monde entouré par la possibilité de communauté. La famille, les médecins, les infirmières, les sages-femmes et même les personnes étrangères admiratives constituent ce champ de connexion, certaines plus intimes que d'autres. Dans notre société, une grande partie du discours sur les valeurs familiales met en avant la famille nucléaire, c'est-à-dire la famille composée de la mère, du père et, de préférence, d'un ou deux enfants seulement. Aux États-Unis, cette unité est présentée comme l'organisation principale et préférable pour l'éducation des enfants. Celle qui assurera le bien-être optimal de chaque personne. Bien entendu, il s'agit d'une image fantaisiste de la famille. Presque personne dans notre société ne vit dans un tel environnement. Même les personnes qui sont éduquées dans des familles nucléaires le vivent généralement comme une simple petite unité au sein d'une unité plus grande de la famille élargie. Le capitalisme et le patriarcat, en tant que structure de domination, ont fait des heures supplémentaires pour miner et détruire cette unité plus large de la famille élargie. Le remplacement de la communauté familiale par une petite unité autocratique plus privatisée a contribué à accroître l'aliénation et à rendre les abus de pouvoir plus possibles. Il a donné la règle absolue au père et la règle secondaire sur les enfants à la mère. En encourageant la ségrégation des familles nucléaires de la famille élargie, les femmes ont été forcées de devenir plus dépendantes d'un homme en particulier et les enfants plus dépendants d'une femme en particulier. C'est cette dépendance qui est devenue, et encore, le terreau des abus de pouvoir. L'échec de la famille nucléaire patriarcale a été parfaitement documenté. Exposée comme dysfonctionnelle le plus souvent, comme un lieu de chaos émotionnel, de négligence et d'abus, seules celles et ceux qui sont dans le déni continuent à insister sur le fait que c'est le meilleur endroit pour éduquer des enfants. Bien que je ne veuille pas suggérer que les familles élargies ne sont pas aussi susceptibles d'être dysfonctionnelles, simplement en raison de leur taille et de l'inclusion de parents non sanguins, c'est-à-dire les individus qui se marient dans la famille et leurs relations de sang. Elles sont diverses et donc susceptibles d'inclure la présence de certaines personnes qui sont à la fois saines d'esprit et aimantes. Lorsque j'ai commencé à parler publiquement de ma famille dysfonctionnelle, ma mère était en colère. Pour elle, mes réalisations étaient un signe que je n'aurais pas pu souffrir autant dans notre famille nucléaire. Pourtant, je sais que j'ai survécu et prospéré malgré la douleur de l'enfance, précisément parce qu'il y avait des personnes aimantes au sein de notre famille élargie qui m'ont nourri et m'ont donné un sentiment d'espoir et de possibilité. Elles m'ont montré que les interactions de notre famille ne constituaient pas une norme, qu'il y avait d'autres façons de penser et de se comporter, différentes des schémas acceptés dans notre foyer. Cette histoire est courante. Survivre et triompher des familles nucléaires dysfonctionnelles peut dépendre de la présence de ce que la psychanalyste Alice Miller appelle des témoins éclairés. Pratiquement chaque adulte qui a connu des souffrances inutiles dans son enfance a une histoire à raconter sur une personne dont la gentillesse, la tendresse et la sollicitude lui ont redonné espoir. Cela n'a pu se produire que parce que les familles existaient dans le cadre de communautés plus larges. La famille nucléaire patriarcale privatisée est une forme d'organisation sociale encore assez récente dans le monde. La plupart des citoyens du monde n'ont pas, et n'auront jamais, les ressources matérielles nécessaires pour vivre dans de petites unités séparées des communautés familiales plus importantes. Aux États-Unis, des études montrent que des facteurs économiques, le coût élevé du logement, le chômage, créent rapidement un climat culturel dans lequel les enfants adultes quittent le foyer familial plus tard et y reviennent fréquemment ou ne le quittent jamais. Les recherches des anthropologues et des sociologues indiquent que les petites unités privatisées, en particulier celles organisées autour de la pensée patriarcale, sont des environnements malsains pour tout le monde. Globalement, une éducation éclairée et saine est mieux réalisée dans le contexte des réseaux communautaires de la famille élargie. La famille élargie est un bon endroit pour apprendre le pouvoir de la communauté. Cependant, elle ne peut devenir une communauté que si les individus qui la composent communiquent honnêtement entre eux. Les familles élargies dysfonctionnelles, comme les petites unités familiales nucléaires, sont généralement caractérisées par une communication confuse. Le fait de garder des secrets de famille rend souvent impossible pour les groupes élargis de construire une communauté. Il y avait autrefois une publicité qui utilisait le slogan « La famille qui prie ensemble reste ensemble ». La prière étant un moyen de communication, elle aide sans aucun doute les membres de la famille à rester en contact. Je me souviens avoir entendu ce slogan à l'adolescence, généralement dans des situations où des figures d'autorité nous contraignaient à prier, et l'avoir changé en « La famille qui parle ensemble reste ensemble ». Parler ensemble est un moyen de créer une communauté. Si nous ne connaissons pas l'amour dans nos familles élargies d'origine, ce qui est le premier site de communauté qui nous est offert, l'autre lieu où les enfants en particulier ont la possibilité de construire une communauté et de savoir ce que l'amour est dans l'amitié. Depuis que nous avons choisi nos amis, beaucoup d'entre nous, de l'enfance à l'âge adulte, se sont tournés vers les amis pour obtenir des soins, du respect, des connaissances et un soutien complet pour notre maturation que nous n'avons pas trouvé dans la famille. Suzanne Miller se souvient dans ses émouvantes mémoires intitulées « Never Let Me Down ». Je n'arrêtais pas de penser que l'amour doit être là, quelque part. J'ai cherché et cherché en moi, mais je ne l'ai pas trouvé. Je savais ce qu'était l'amour. C'était le sentiment que j'avais pour mes poupées, pour les belles choses, pour certaines amies. Plus tard, quand j'ai connu Debbie, ma meilleure amie, j'ai été encore plus sûr que l'amour était ce qui vous faisait vous sentir bien. L'amour n'était pas ce qui vous faisait vous sentir mal, vous détestait. C'était ce qui vous réconfortait, vous libérait à l'intérieur, vous faisait rire. Parfois, Debbie et moi nous disputions, mais c'était différent parce que nous étions fondamentalement, essentiellement connectés. Les amitiés amoureuses nous offrent un espace pour expérimenter la joie de la communauté dans une relation où nous apprenons à traiter tous nos problèmes, à faire face aux différences et aux conflits tout en restant connectés. La plupart d'entre nous sont éduqués dans la croyance que nous trouverons l'amour soit dans notre première famille, notre famille d'origine, soit, si ce n'est pas le cas, dans la deuxième famille que nous sommes censés former par des relations amoureuses engagées, en particulier celles qui mènent au mariage et ou à des liens à vie. Beaucoup d'entre nous apprennent dès leur enfance que l'amitié ne doit jamais être considérée comme aussi importante que les liens familiaux. Cependant, l'amitié est le lieu où une grande majorité d'entre nous a un premier aperçu de l'amour rédempteur et de la communauté d'entraide. Apprendre à aimer dans le cadre de l'amitié nous donne le pouvoir de faire naître cet amour dans d'autres interactions avec la famille ou dans des liens romantiques. La mère d'une chère amie est morte alors qu'elle n'était qu'une jeune adulte. Une fois, alors que je me plaignais que ma mère s'en prenait à moi, elle m'a dit qu'elle donnerait n'importe quoi pour entendre la voix de sa mère la gronder. En m'encourageant à être patiente avec ma mère, elle a parlé de la douleur de la perte de sa mère et a souhaité qu'elles aient travaillé plus dur pour trouver un espace de communication et de réconciliation. Ses paroles m'ont rappelé d'être compatissante, de me concentrer sur ce que j'aime vraiment chez ma mère. En toute amitié, nous pouvons entendre un retour d'informations honnêtes et critiques. Nous sommes convaincus qu'une véritable personne amie désire notre bien. Mon ami veut que je savoure la présence de ma mère. Souvent, nous tenons les amitiés pour acquises, même lorsqu'il s'agit d'interactions où nous éprouvons un plaisir mutuel. Nous les plaçons dans une position secondaire, surtout en ce qui concerne les liens romantiques. Cette dévalorisation de nos amitiés crée un vide que nous ne voyons pas forcément lorsque nous consacrons toute notre attention à trouver quelqu'un à aimer de façon romantique ou à accorder toute notre attention à un être cher choisi. Les relations amoureuses engagées ont beaucoup plus de chances de devenir codépendantes lorsque nous coupons tous nos liens avec nos amis pour donner à ces liens que nous considérons comme primordiaux notre attention exclusive. Je me suis senti particulièrement dévasté lorsque des proches célibataires sont tombés amoureux et ont simultanément rompu notre amitié. Lorsqu'une meilleure amie a choisi un compagnon qui ne s'entendait pas du tout avec moi, cela m'a causé un chagrin d'amour. Non seulement ils ont commencé à tout faire ensemble, mais les amis dont elle est restée la plus proche étaient celles et ceux qui l'aimaient le plus. La force de notre amitié a été révélée par notre volonté d'affronter ouvertement le changement de nos liens et d'apporter les changements nécessaires. Nous ne nous voyons plus autant qu'avant et nous ne nous appelons plus quotidiennement. Mais les liens positifs qui nous unissent restent intacts. Plus nos amours romantiques sont authentiques, plus nous ne nous sentons pas appelés à affaiblir ou à rompre des liens avec nos amis, afin de renforcer les liens avec nos partenaires romantiques. La confiance est le cœur de l'amour authentique. Et nous avons confiance que l'attention que nos partenaires accordent à leurs amis, ou vice-versa, ne nous enlève rien. Nous ne sommes pas diminués. Ce que nous apprenons par expérience, c'est que notre capacité à établir des liens d'amitié profonds renforce tous nos liens intimes. Lorsque nous considérons l'amour comme la volonté de nourrir notre propre maturation spirituelle ou celle d'autrui, révélé par des actes de soin, de respect, de connaissance et de responsabilité. Le fondement de tout amour dans notre vie est le même. Il n'y a pas d'amour spécial exclusivement réservé aux partenaires romantiques. L'amour véritable est le fondement de nos fiançailles avec nous-mêmes, avec notre famille, avec nos amis, avec nos partenaires, avec celles et ceux que nous choisissons d'aimer. Bien que nous nous comportions nécessairement différemment selon la nature de la relation, ou que nous soyons plus ou moins engagés, les valeurs qui sous-tendent notre comportement, lorsqu'elles sont ancrées dans une éthique de l'amour, sont toujours les mêmes pour toute interaction. L'une des plus longues relations amoureuses de ma vie a été celle dans laquelle je me suis comporté de manière plus traditionnelle en la plaçant au-dessus de toutes les autres interactions. Quand elle est devenue destructrice, j'ai eu du mal à la quitter. Je me suis retrouvé à accepter des comportements, abus verbaux et physiques, que je n'aurais pas tolérés dans une amitié. J'avais été éduqué de manière conventionnelle pour croire que cette relation était spéciale et devait être vénérée avant tout. La plupart des femmes et des hommes nés dans les années 50 ou avant ont été socialisés pour croire que les mariages et ou les liens romantiques engagés de quelque nature que ce soit devraient avoir la priorité sur toutes les autres relations. Si j'avais évalué ma relation d'un point de vue qui mettait l'accent sur la maturation plutôt que sur le devoir et l'obligation, j'aurais compris que les abus sapent irrémédiablement les liens. Trop souvent, les femmes croient que c'est un signe d'engagement, une expression d'amour, que de supporter la méchanceté ou la cruauté, de pardonner et d'oublier. En réalité, lorsque nous aimons à juste titre, nous savons que la réponse saine et aimante à la cruauté et à la maltraitance nous met hors d'état de nuire. Même si j'étais une féministe engagée dans ma jeunesse, tout ce que je connaissais et ce en quoi je croyais politiquement en matière d'égalité a été, pendant un temps, éclipsé par une éducation religieuse et familiale qui m'avait socialisé pour me faire croire que tout devait être fait pour sauver la relation. Rétrospectivement, je vois comment l'ignorance de l'art d'aimer a mis la relation en danger dès le départ. Pendant les 14 ans que nous avons passés ensemble, nous étions trop occupés à répéter de vieux schémas appris dans l'enfance, à agir sur la base d'informations erronées concernant la nature de l'amour. Pour apprécier les changements que nous devions apporter en nous-mêmes pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Il est important de noter que, comme beaucoup d'autres femmes et hommes, quelle que soit leur préférence sexuelle, qui sont dans des relations où ils sont l'objet d'un terrorisme intime, j'aurais pu quitter cette relation plus tôt ou m'y remettre si j'avais apporté à ce lien le niveau de respect, d'attention, de connaissance et de responsabilité que j'ai apporté aux amitiés. Les femmes qui ne toléraient plus une amitié dans laquelle elles ont été victimes de violences physiques ou émotionnelles reste dans des relations amoureuses où ces violations se produisent régulièrement. Si elles avaient apporté à ces liens les mêmes normes que celles qu'elles apportent à l'amitié, elles n'accepteraient pas d'être victimisées. Naturellement, lorsque j'ai quitté cette relation à long terme, qui avait pris tant de temps et d'énergie, j'étais terriblement seul et isolé. J'ai alors appris qu'il est plus satisfaisant de vivre sa vie dans un cercle d'amour, en interagissant avec des êtres chers envers lesquels nous sommes engagés. Beaucoup d'entre nous apprennent ces leçons à la dure, en se retrouvant seuls et sans lien significatif avec leurs amis. Et c'est l'expérience de vivre à la fois dans la peur d'être abandonné dans des relations amoureuses et d'être abandonné qui nous a montré que les principes de l'amour sont toujours les mêmes dans tout lien significatif. Bien aimer est la tâche de toutes les relations significatives et pas seulement des liens romantiques. Je connais des personnes qui acceptent la malhonnêteté dans leurs relations primaires ou qui sont elles-mêmes malhonnêtes alors qu'elles ne l'accepteraient jamais dans des relations amicales. Les amitiés satisfaisantes dans lesquelles nous partageons un amour mutuel nous servent de guide pour le comportement dans d'autres relations, y compris les relations romantiques. Elles nous donnent à toutes et à tous un moyen de connaître la communauté. Au sein d'une communauté aimante, nous entretenons des liens en faisant preuve de compassion et de pardon. La vie est faite pour aimer d'Eric Butterworth comprend un chapitre sur l'amour et le pardon. Il écrit avec perspicacité. Nous ne pouvons pas endurer sans amour. Il n'y a pas d'autre moyen de retrouver un amour qui guérit, réconforte et harmonise qu'à travers un pardon total et complet. Si nous voulons la liberté et la paix et l'expérience de l'amour et de l'être aimé, nous devons lâcher prise et pardonner. Le pardon est un acte de générosité. Il exige que nous placions la libération d'une autre personne de la prison de sa culpabilité ou de son angoisse face à nos sentiments d'indignation ou de colère. En pardonnant, nous traçons un chemin sur la voie de l'amour. C'est un geste de respect. Le véritable pardon exige que nous comprenions les actions négatives d'autrui. Si le pardon est essentiel à la maturation spirituelle, il ne rend pas tout immédiatement merveilleux ou beau. Souvent, les écrits New Age sur le sujet de l'amour donnent l'impression que tout sera toujours merveilleux si nous aimons simplement. En réalité, faire partie d'une communauté aimante ne signifie pas que nous ne serons pas confrontés à des conflits, des trahisons, des résultats négatifs d'actions positives ou de mauvaises choses qui arrivent à des gens bien. L'amour nous permet de faire face à ces réalités négatives d'une manière qui confirme la vie et l'améliore. Lorsqu'une collègue dont j'admirais le travail, que je considérais comme une amie, qui pour une raison qui ne m'a jamais paru claire, s'est mise à écrire des attaques vicieuses contre mon travail, j'ai été stupéfaite. Ces critiques étaient pleines de mensonges et d'exagérations. J'avais été une amie attentionnée. Ces actions m'ont blessée. Pour guérir de ses douleurs, je me suis identifié à elle avec empathie afin de comprendre ce qui pouvait la motiver. Dans le pardon, un choix audacieux pour un cœur paisible, explique Robin Kassar-Jian. Le pardon est un mode de vie qui nous transforme progressivement de victimes impuissantes de nos circonstances à des personnes co-créatrices puissantes et aimantes de notre réalité. C'est la disparition des perceptions qui obscurent notre capacité à aimer. Grâce à la pratique de la compassion et du pardon, j'ai pu maintenir mon appréciation de son travail et faire face au chagrin et à la déception que j'ai ressenti face à la perte de cette relation. Pratiquer la compassion m'a permis de comprendre pourquoi elle aurait pu agir comme elle l'a fait et de lui pardonner. Pardonner signifie que je suis capable de la voir comme une membre de ma communauté encore, une personne qui a une place dans mon cœur si elle souhaite la revendiquer. Nous aspirons toutes et tous à une communauté aimante. Cela renforce la joie de vivre. Mais beaucoup d'entre nous recherchent la communauté uniquement pour échapper à la peur d'être seul. Savoir être seul est essentiel à l'art d'aimer. Lorsque nous pouvons être seuls, nous pouvons être avec les autres sans les utiliser comme un moyen d'évasion. Tout au long de sa vie, le théologien Henri Nouwen a souligné la valeur de la solitude. Dans nombre de ses livres et essais, il nous a découragés de voir la solitude comme un besoin d'intimité, partageant son sentiment que dans la solitude, nous trouvons l'endroit où nous pouvons vraiment nous regarder et nous débarrasser du faux moi. Dans son livre Reaching Out, il souligne que la solitude est l'une des sources les plus universelles de la souffrance humaine aujourd'hui. Nguyen affirme qu'aucun ami ou amant, aucun mari ou femme, aucune communauté ou commune ne pourra mettre fin à nos plus profonds désirs d'unité et de plénitude. Avec sagesse, il suggère que nous mettions ces sentiments au repos en embrassant notre solitude, en permettant à l'Esprit divin de s'y révéler. Le chemin difficile est le chemin de la conversion de la solitude à la solitude. Au lieu de fuir notre solitude et d'essayer de l'oublier ou de la nier, nous devons la protéger et la transformer en une solitude féconde. La solitude est douloureuse, la solitude est paisible. La solitude nous fait nous accrocher aux autres en désespoir de cause. La solitude nous permet de respecter les autres dans leur singularité et de créer une communauté. Lorsqu'on apprend aux enfants à profiter des moments de tranquillité, à être seuls avec leurs pensées et leurs rêveries, ils et elles gardent cette compétence à l'âge adulte. Les personnes jeunes et âgées qui s'efforcent de surmonter leur peur d'être seules choisissent souvent la pratique de la méditation comme moyen d'embrasser la solitude. Apprendre à s'asseoir dans le calme et la quiétude peut être le premier pas vers la connaissance du confort dans la solitude. Passer de la solitude à la communauté renforce notre capacité à nous rapprocher les uns des autres. Grâce à la camaraderie, nous apprenons à nous servir les uns les autres. Le service est une autre dimension de l'amour communautaire. À la fin de son autobiographie, La roue de la vie, Elisabeth Kübler-Ross avoue: « Je peux vous assurer que les plus grandes récompenses de toute votre vie viendront de l'ouverture de votre cœur aux personnes qui sont dans le besoin. Les plus grandes bénédictions viennent toujours en aidant. Les femmes ont été et sont encore les plus grandes enseignantes du monde sur la signification du service. Nous honorons publiquement la mémoire des personnes exceptionnelles comme Mère Teresa, qui ont fait une vocation de service. Mais il y a des femmes que tout le monde connaît et dont l'identité ne sera jamais reconnue publiquement par le monde, qui servent avec patience, grâce et amour. Nous pouvons toutes et tous apprendre de l'exemple de ces femmes attentionnées. Tout à l'heure, je décrivais mon impatience à l'égard de ma mère. En regardant sa vie, j'ai été impressionné par sa capacité à se mettre au service des autres. Elle m'a appris, ainsi qu'à tous ses enfants, la valeur et la signification du service. Enfant, j'ai été témoin de ses soins patients aux personnes malades et mourantes. Sans se plaindre, elle les a hébergés et aidés. Ses actions m'ont appris la valeur du don libre. Il est important de se souvenir de ses actions. Il est si facile pour nous d'oublier le service que les femmes rendent aux autres dans la vie quotidienne, les sacrifices qu'elles font. Souvent, la pensée sexiste occulte le fait que ces femmes font le choix de servir, qu'elles donnent depuis l'espace du libre arbitre et non en raison d'un destin biologique. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas intéressées par l'idée de servir, qui dénigrent le fait de rendre service. Quand on pense qu'une femme qui sert donne parce que c'est ce que font les mères ou les vraies femmes, on nie sa pleine humanité, on ne voit donc pas la générosité inhérente à ses actes. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas intéressées par le fait de rendre service, qui le méprisent eux-mêmes. La volonté de sacrifice est une dimension nécessaire de la pratique de l'amour et de la vie en communauté. Personne parmi nous ne peut avoir les choses comme désiré tout le temps. Renoncer à quelque chose est une façon de maintenir un engagement envers le bien-être collectif. Notre volonté de faire des sacrifices reflète notre conscience de l'interdépendance. Martin Luther King Jr. a prêché sur la nécessité de combler le fossé entre les riches et les pauvres. Tous les hommes et les femmes sont pris dans un réseau de mutualité inéluctable, lié par un seul vêtement de la destinée. Tout ce qui affecte directement l'un affecte indirectement tous les autres. Ce fossé est comblé par le partage des ressources. Chaque jour, des personnes qui ne sont pas riches, mais qui sont matériellement privilégiées, font le choix de partager avec d'autres. Certaines personnes parmi nous partagent en versant consciemment la dîme, en donnant régulièrement une partie de leurs revenus, et d'autres, par une pratique quotidienne de la bonté aimante, en donnant aux personnes qui sont dans le besoin et que nous rencontrons au hasard. Le don mutuel renforce la communauté. Profiter des avantages de vivre et d'aimer en communauté nous permet de rencontrer des personnes étrangères sans crainte et de leur offrir le cadeau de l'ouverture et de la reconnaissance. Le simple fait de parler à une personne étrangère, de reconnaître sa présence sur la planète, nous permet d'établir un lien. Chaque jour, nous avons l'occasion de mettre en pratique les leçons apprises en communauté. La gentillesse et la courtoisie nous relient les uns aux autres. Dans son livre The Different Room, Peck nous rappelle que l'objectif d'une véritable communauté est de chercher les moyens de vivre avec soi-même et avec les autres dans l'amour et la paix. Contrairement à d'autres mouvements de changement social qui nécessitent de rejoindre des organisations et d'assister à des réunions, nous pouvons entamer le processus de création d'une communauté où que nous soyons. Nous pouvons commencer par partager un sourire, une salutation chaleureuse, un peu de conversation, en faisant un geste gentil ou en reconnaissant la gentillesse qui nous est offerte. Chaque jour, nous pouvons nous efforcer d'amener nos familles à se rapprocher les unes des autres pour former une plus grande communauté. Mon frère a été heureux quand je lui ai suggéré de penser à déménager dans la même ville que celle où j'habite afin que nous puissions nous voir davantage. Cela a renforcé son sentiment d'appartenance. Et je me suis senti aimé, qu'il veuille être là où j'étais. Chaque fois que j'entends des amis parler de leur éloignement des membres de leur famille, je les encourage à chercher un chemin de guérison, à chercher à rétablir des liens. À un moment donné, ma sœur, qui est lesbienne, a senti qu'elle voulait se séparer de la famille parce que les membres de la famille étaient souvent homophobes. Affirmant et partageant sa colère et sa déception, je l'ai également encouragée à trouver les moyens de rester en contact. Au fil du temps, elle a constaté des changements positifs majeurs. Elle a vu la peur céder la place à la compréhension, ce qui ne serait pas arrivé si elle avait accepté l'éloignement comme seule réponse à la douleur du rejet. Chaque fois que nous guérissons des blessures familiales, nous renforçons la communauté. Ce faisant, nous nous engageons dans une pratique d'amour. Cet amour jette les bases d'une élaboration constructive de la communauté avec des personnes étrangères. L'amour que nous pratiquons en communauté reste avec nous où que nous allions. Avec cette connaissance comme guide, nous faisons de chaque endroit où nous allons un endroit où nous retournons à l'amour.